Avant de commencer, j'aimerais que nous prions pour présenter ce moment au Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te présenter ce moment parce que ce moment t'appartient. C'est un honneur et un privilège que de pouvoir ouvrir ta parole et d'être à l'écoute de ta parole. Alors oui, je te présente ce moment et je te demande de le revêtir de toute ton onction. Que ces paroles soient inspirées par le Saint-Esprit. Que nous soyons attentifs à ce que tu veux nous dire, à ce que tu veux que nous comprenions. Que nous soyons aussi encouragés dans nos besoins, dans tout ce que nous avons besoin de ce que nous vivons. Oui, Seigneur, nous remettons à toi. Nous sommes là devant toi et nous te disons que ta gloire soit présente. Parce que c'est pour l'honneur de ta gloire que nous sommes là. Merci Jésus pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir demeurer et être dans ta présence. Alors je te rends grâce et je te rends l'honneur qui t'est dû. Merci Seigneur. Je vous invite à me suivre dans un passage qui se trouve dans Luc au chapitre 13 et au verset 31, et nous lirons de 31 à 33. Il nous est dit ceci: ce même jour, des pharisiens vinrent lui dire à Jésus, donc il est question, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Il leur répondit: « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons, aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je poursuive ma route, aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Amen. » Et si je peux dire ainsi, le thème du sujet sera « Ne t'arrête pas en chemin ». Et pour ce faire, je prendrai plutôt ce verset 33 qui dit « Il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant ». Jésus connaissait la nature de sa mission et il savait qu'il ne fallait pas qu'il s'arrête. Il ne fallait pas qu'il écoute toutes ces voix qui voulaient interférer dans sa mission. Nous sommes au début de cette nouvelle année, donc il m'est permis d'en parler encore, parce que chaque année, c'est la même chose. À chaque nouvel an, des gens prennent des résolutions. Bonnes ou mauvaises, mais on prend des résolutions que l'on ne tiendra pas de toute façon. Parce que les résolutions sont quasiment jamais tenues. Ce ne sont que des résolutions. Et moi, je dis pas de résolutions. Je dis non aux résolutions. Mais je dis oui à la détermination. Ce qui compte, c'est la détermination. Ce n'est pas la résolution que l'on va prendre. Un jour, quelqu'un a dit que l'enfer était pavé de gens qui avaient de bonnes intentions. L'intention, même si elle est bonne, n'est pas suffisante. Ce qui compte, c'est la détermination. Je prendrai cette phrase que Paul a proclamée et que je proclamerai moi aussi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne change pas. Il reste le même. Mais seulement, ce n'est pas le tout de le proclamer ou de l'avoir lu dans la parole de Dieu. Est-ce que tu le crois réellement dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il peut tout changer? Et si tu le crois, alors pourquoi crains-tu? Pourquoi doutes-tu? Pourquoi te poses-tu tant de questions? Si tu crois réellement que Jésus-Christ est le même, tu n'as rien à craindre, parce qu'il sera forcément à tes côtés, puisqu'il est le même. On n'a rien à redouter. On n'a pas à douter. Il est là. C'est un acquis. Il nous l'a promis. Et en plus, nous avons une multitude de témoins qui vont confirmer que Jésus-Christ est le même. Pas simplement par la parole de Dieu, mais dans nos contemporains aussi. Il nous suffit de regarder, il nous suffit d'écouter pour comprendre que ce qu'il fait aux uns, il veut le faire aussi pour toi. Il veut le faire pour chacun d'entre nous, parce qu'il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Nous sommes pour lui chacun égaux et tous les mêmes, petits, grands, intellectuels ou peu. Nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Donc nous n'avons rien à craindre. Nous sommes entourés d'une multitude de gens qui pourraient le témoigner. Chacun d'entre nous. Il ne faut pas simplement le témoigner, il faut s'en accaparer aussi. Il faut vraiment le prendre dans son cœur, dans son âme, réellement. Et en plus de cette foule de témoins, nous avons dans l'Épître aux Hébreux qui va nous le confirmer, qui va dire au chapitre 12 et au verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Et dans ce verset, je retiendrai deux mots. Persévérance, épreuve. Deux mots que l'on n'aime pas vraiment. L'épreuve, la persévérance. Et pourtant, tel est l'évangile de Jésus-Christ. Quand l'auteur des Hébreux nous dit, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et courons avec persévérance, ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça rappelle ce que disait Paul à Timothée, qui, lui, pouvait dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Parce que, comme je le disais, l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas un évangile de pétales de rose, c'est un évangile où il faut tenir ferme, où il faut combattre, où il faut persévérer. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14 et au verset 22, il nous est dit la chose suivante, c'est que Paul et Barnabas fortifiaient l'esprit des disciples en les encourageant à persévérer dans la foi. Il disait même que c'est à travers de beaucoup de difficultés qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit cette parole dans Luc, le chapitre 18 de Luc, et au verset 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il seulement la foi? Quand Jésus va revenir, trouvera-t-il seulement la foi? Ce verset m'a toujours interpellé et je me suis dit, mais pourquoi? Et ça m'a conduit, et je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit à m'éclairer et à me conduire dans le verset qui se trouve dans Matthieu au chapitre 24 et au verset 12. C'est la réponse pour moi. Il nous est dit la chose suivante. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors la progression du mal peut se traduire sous toute forme. L'égoïsme, l'individualisme, notre société d'aujourd'hui, qui va faire que les gens vont se refermer, vont perdre la foi. Voilà pourquoi Jésus disait, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi seulement sur cette terre ? Et en cela, je dis que notre rôle, à chacun d'entre nous, et individuellement, c'est de nous encourager, nous rappelant que de toute façon, nul n'est parfait, mais que devant Dieu, nous sommes tous les mêmes. Pour Dieu, nous sommes tous les mêmes. Il n'y a pas de différence. Et que notre rôle, c'est de s'encourager. Quand l'un tombe, il doit pouvoir être relevé. Quand l'un éprouve un besoin, il doit être secouru. Quel que soit le besoin, la solitude, le manque d'amour, quelles que soient les situations, d'autant plus aujourd'hui, où c'est de plus en plus difficile et que nous devons rester sur nos gardes. Mais dans tout cela, il y a le verset suivant de Matthieu au chapitre 24. Le verset suivant, il y a le « mais de Dieu ». Le « mais de Dieu », c'est « mais à celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé ». Quelles que soient les tribulations que l'on peut connaître, quelle que soit la situation que l'on peut connaître, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous pouvons passer, quel que soit tout ce que tu veux, si tu persévères, parce que nous sommes appelés à persévérer, on n'est pas appelés à baisser les bras, même si ce n'est pas facile, rien n'est facile, et encore moins quand on est chrétien. Mad Marvan le chante. Même si c'est difficile, même si ce n'est pas facile, je continuerai à glorifier Dieu, je continuerai à glorifier l'Éternel. Parce que l'Éternel, il n'attend que ça. Dieu n'attend que ça, qu'on lui fasse confiance. Quoi que ce soit que l'on passe, qu'on lui fasse confiance, envers et malgré tout. Envers et malgré tout, je dis. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut bien se le dire. Et la Bible dit que le chemin est étroit et bien resserré pour celui qui veut être sauvé. Mais elle dit aussi que ceux qui se confient dans le Seigneur trouvent des chemins tout tracés. Notre rôle, c'est de faire confiance. Notre rôle, c'est de croire et de croire et de croire. Pas se poser de questions. Pas se poser de questions, c'est pas une question de faire l'autruche, non, c'est de faire confiance, c'est différent. Et quand je fais confiance, je me pose plus de questions. Les gens qui ont eu des enfants le savent. L'enfant, il fait confiance à ses parents. Papa, maman lui dit quelque chose, il va pas le mettre en doute, parce que papa et maman le dit. Il va faire confiance, il va pas dire, mais pourquoi il me dit ça ? Non. Il va faire confiance. Et notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, puisque nous avons comme Père sur lui, celui qui a tout créé, dans le ciel comme sur la terre, celui qui est l'auteur de ce monde dans lequel nous vivons, celui qui est, en plus d'être notre Père céleste, il est notre Créateur. Il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos besoins. Parfaitement, et des fois, et même plus, encore mieux que nous. Encore mieux que nous, il connaît nos besoins. Alors je dirais la chose suivante. La Bible nous parle de trois sortes d'individus. Elle nous parle des froids, elle nous parle des tièdes, et elle nous parle des bouillants. Et moi, je vais vous faire une confidence. Je préfère être froid que tiède. parce que les tièdes, Dieu les vomira de sa bouche. Mais encore plus fort, je préfère être bouillant. C'est évident. Et nous devons être bouillants. Mais pas tièdes. Je ne vous ferai pas une prédication sur ce qui est tiède, bien que je le pourrais. Mais la parole de Dieu le dit, les tièdes, Dieu les vomira un jour de sa bouche. Les tièdes, pour moi, c'est ceux qui sont entre deux chaises. Ils ne savent pas. Ils sont moitié dans le monde, moitié dans le royaume de Dieu. Ils ne savent pas. Ah, le dimanche, ils vont à l'église, mais le reste du temps, ils mènent leur petite vie, tranquille, bien peinard. Voilà. Et c'est loin, les affaires du royaume de Dieu. Non, vaut mieux être froid que tiède. J'ai vécu cela. Pendant un temps, j'étais tellement désespéré et aux abois que j'ai préféré être froid que tiède. Parce que sinon, je n'aurais pas été authentique. Parce que sinon, ce que je professais n'aurait pas été vrai. Devant Dieu, pas devant les hommes, j'en ai rien à faire, mais devant Dieu. J'aurais dit des choses que je ne pensais pas. J'aurais fait des choses que... Non. Alors j'ai préféré me tenir à l'écart. Mais je me tenais à l'écart sachant qu'un jour, Dieu allait me rappeler. Pour les autres, oh oui, j'étais un rétrograde, j'étais tout ce que l'on veut. Mais je n'en ai rien à faire, c'est pas eux que je rendrai des comptes. J'ai préféré me tenir à l'écart et être froid. Parce que je sais qu'un jour, le Dieu en qui je crois me rendrait bouillant. Il me rendrait bouillant pour sa gloire. Il me rappellerait à lui. Parce qu'il savait les temps par lesquels je passais aussi. La Bible nous dit et nous exhorte bien à ne pas juger. Le jugement, si tu commences à juger, tu prends la place du Christ. On n'est pas appelé à juger. On est appelé à aimer. La mère Teresa disait la chose suivante qui m'a toujours frappé. Tout le temps que tu passes à juger quelqu'un, tu ne le passes pas à aimer. Pendant que tu juges, tu n'aimes pas. Et nous sommes appelés à aimer. C'est le premier commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Parce que c'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Nous devons être envahis. Je dis bien le mot. Envahis par l'amour. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Nous dit la Bible. Il faut vivre vraiment cette parole de Dieu et la mettre en pratique, pas simplement la lire, mais la mettre aussi en pratique. La parole de Dieu nous donne un bon encouragement dans nos situations. Dans Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 29, il nous est dit celui-ci. Il donne la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Voilà l'identité de celui qui met toute sa force et son espérance dans son Père céleste, dans son Sauveur, Jésus-Christ. Mais, et toi, où en es-tu avec ton chemin, sur ton chemin, où en es-tu avec ton Sauveur? Qu'en est-il de ta foi? Qu'en est-il du parcours que tu fais? As-tu toujours ce même feu que lorsque Jésus est rentré dans ton cœur, dans ta vie? As-tu toujours ce même feu? As-tu toujours ce même désir de vouloir tout lui donner, de mourir à toi-même, de ne plus avoir égard de toi? Parce que c'est ça que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne à nous renier nous-mêmes pour être un vrai disciple, à moins que l'on ne veuille pas être un disciple. Mais un vrai disciple, il est appelé à se renier lui-même et à prendre pour exemple Jésus-Christ. Il est appelé à ne pas avoir d'égard, mais avoir d'égard pour l'autre. Où en es-tu? Où en es-tu? Lui donnes-tu tout ou gardes-tu une partie pour toi? Te réserves-tu un jardin secret qui ne te regarde que toi? Mais sache que dans ce jardin secret, Dieu le voit, Dieu le sait, et ça ne réjouit pas son cœur, parce qu'il veut qu'on lui donne tout. Il ne veut pas qu'on lui donne simplement le meilleur, mais on veut qu'on lui donne tout, et surtout le plus mauvais. Mais pour Dieu, notre plus mauvais n'est pas forcément mauvais, parce qu'il nous comprend. Il comprend nos situations. Il ne nous condamne pas. Le diable veut te faire croire que Dieu te condamne. Mais il ne te condamne pas, Dieu. Il ne te condamne pas. Sache-le. C'est pour ça qu'il faut s'abandonner complètement à lui. C'est pour ça qu'il faut lui donner plus que le meilleur de nous-mêmes. Il faut lui donner nos difficultés aussi. Il faut lui donner nos manquements. Quand on se trompe, il faut lui dire. Quand on a fait un faux pas, il faut lui dire. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il est prompt à nous écouter. Il est prompt à nous pardonner. Bien sûr qu'il ne faut pas en abuser non plus. Comme je disais tout à l'heure, le plus important, et ça résume tout pour moi, c'est d'être authentique. Authentique, c'est quoi? C'est être comme nous sommes, transparent, avec nos qualités, avec nos défauts. Nous ne sommes pas parfaits de toute façon. Personne n'est parfait. Seul Jésus-Christ nous rendra parfaits le jour où on le rencontrera, le jour où on sera dans sa présence. Si la vie était aussi facile, s'il n'y avait pas de difficultés, ce que nous voulons tout le temps, c'est qu'il n'y ait pas de difficultés. Mais je voudrais vous dire que si c'était aussi facile, et notamment au début du christianisme, mais nous n'aurions pas de Nouveau Testament. La Bible de la seconde partie du Nouveau Testament n'existerait pas finalement, parce que Paul n'aurait pas eu d'exhortation à donner, parce qu'il n'y aurait pas d'épître pour encourager, pour montrer notre héritage, pour montrer quelle est la voie de notre salut, pour nous montrer ce qui nous attend, mais pour nous montrer aussi la grâce de Dieu, pour nous interpeller, pour nous exhorter, pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous éduquer, pour ressembler à notre Maître. Il n'y aurait pas ça si c'était aussi facile. Il n'y aurait pas ça. Mais Dieu savait, ça a toujours été. Salomon l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été et sera encore. Il n'y a rien de nouveau. Les gens pensent que, oh, c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau, c'est pas vrai. Regarde un petit peu plus antérieurement et antérieurement. Rien de nouveau sous le soleil. Mais Paul nous dira, dans Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Des embûches, tu peux en avoir, mais Dieu te relèvera tout le temps, puisqu'il est pour toi, puisqu'il est à tes côtés. Puisque Jésus nous a dit, ne craignez pas, je suis chaque instant de chaque jour avec vous. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a cloué Satan à la croix. De quoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Que pouvons-nous craindre? Oui, mais c'est pas facile, les épreuves. Oui, Paul a dit que tous ceux, il a dit à Timothée, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et la persécution peut se traduire de différentes manières. Pas simplement physique, mais elle peut être morale, elle peut être de toutes sortes. Il y a toutes sortes de persécutions. Et il a bien dit à Timothée que tous ceux qui voudraient vivre pieusement en Jésus-Christ, pas partiellement, mais pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. Alors, pourquoi ça serait différent? Pourquoi ça serait différent? Les difficultés, la douleur, les différentes situations, tant de choses qui peuvent être un frein à notre marche. D'où la nécessité de ne pas s'arrêter en chemin. De ne pas s'arrêter en chemin. Alors oui, les épreuves, c'est jamais marrant les épreuves. Mais en matière d'épreuves, je pourrais vous en parler. Parce que l'épreuve, je la connais bien. Et je pense être en mesure même de vous dire ce que c'est l'épreuve. Moi qui, normalement, je vous l'ai déjà dit dans un témoignage, mais je ne devrais plus être de ce monde, et pas simplement qu'une fois, mais par plusieurs fois, je devrais être mort. J'ai connu la solitude, l'angoisse, le fait de ne plus rien avoir, ne pas savoir de quoi est fait le lendemain. Mais c'est dramatique psychologiquement. Si je n'ai pas perdu la raison, c'est par la grâce de Dieu. Parce que j'aurais pu tomber dans la démence et dans la folie aussi. Et ça, je veux le proclamer aussi. Oui, les épreuves, la douleur, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que d'être abandonné. Je sais ce que c'est que d'être isolé, de vouloir un ami et de ne pas en avoir, de vouloir parler à quelqu'un et de n'avoir personne à qui parler. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de sombrer petit à petit. Je sais ce que c'est que la maladie, une maladie de telle sorte et telle intense qu'on vous regarde comme un pestiféré. Et toi, tu te demandes, comment tu vas réagir? Quel bois tu vas être mangé? Quand ton père, ta mère, enfin soi-disant ton père, ta mère ne te regarde même plus parce qu'ils ont peur, ils ont peur. Ils ont peur d'être infectés. Quand il n'y a plus personne. Oui, mais au-delà de tout cela, ce que je veux proclamer, au-delà de toutes ces épreuves, il y a ce cantique que j'aime. Mais il n'y a pas que ce cantique. Compte les bienfaits de Dieu, mais il n'y a pas que ça. Ce que je veux me souvenir, c'est que Dieu, je suis son fils, c'est que Dieu est fidèle. Il ne m'a jamais abandonné. À partir du jour où je lui ai donné mon cœur, à partir du jour où je lui ai dit oui, à partir du jour où je l'ai obéi, que je sois en haut, que je sois en bas, il a toujours été avec moi. Que je sois froid ou que je sois bouillant, il a toujours été à mes côtés. La fidélité de Dieu. Marcher dans sa présence. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, même pire des fois. Je ne méritais rien. Et pourtant, lui, il a toujours été là. Je ne connaissais pas l'amour d'un père. Il m'a révélé l'amour d'un père. Pour moi, ça a été difficile de prononcer ce mot « papa » parce que je n'ai jamais su le dire, puisque je n'ai pas eu de père. Et pourtant, Dieu s'est révélé comme mon père. Alors les épreuves... Oui, mais ça, c'est pas biblique. Il nous faut tenir ferme. Il nous faut persévérer. On peut prendre le Nouveau Testament comme on le veut dans tous les épîtres et jusque dans l'Apocalypse. Nous sommes appelés en tant que chrétiens, en tant que croyants, je dirais, à persévérer, à tenir ferme, à garder la foi, quelles que soient les situations, parce que Dieu a des projets. Et dis-toi bien qu'il y a peut-être plus malheureux que toi. Il y a peut-être plus malheureux que toi. Oui, je sais, on le dit tout le temps. Oui, il y a toujours plus malheureux. Mais non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. J'ai connu des gens, tout au moins par témoignage, dans des vidéos ou comme cela, où des gens étaient plus malheureux, oui. Ils étaient très malheureux. Le proverbe 24 nous dit la chose suivante, et je prends ça comme un encouragement. Cette fois le juste tombe et il se relève. Et il se relève. Proverbe 24, verset 16. Pourquoi il nous est écrit ça? Parce que dans le psaume 37 et au verset 24, il nous est dit que l'Éternel lui prend la main. L'Éternel lui prend la main. Et le verset 25 nous dit la chose suivante. J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants manquer de pain. Voilà pourquoi nous n'avons aucune raison à ne pas continuer notre route. Nous n'avons aucune raison à nous arrêter en chemin. Parce que même si nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. Il reste fidèle parce qu'il ne peut pas renier son nom, C'est ce que nous dit la Bible aussi. Jésus-Christ est fidèle, il est le fidèle, il est celui qui a tout accompli, et c'est à lui que revient tout le mérite. Parce que finalement, nous ne méritons rien si Dieu ne nous avait pas fait grâce un jour. Si Dieu ne t'avait pas fait grâce, s'il ne t'avait pas épargné, où tu en serais? Pose-toi la question. Regarde en arrière au lieu de regarder au présent. Et compte les bienfaits de Dieu. Compte-les. Compte-les à chaque fois qu'il t'a secouru. Compte-les à chaque fois que tu ne savais plus où tu en étais et qu'il s'est révélé, que d'un seul coup il y a eu une lumière. Compte. Et tu verras combien le nombre en est grand et que tu pourras le louer, l'adorer. Tu pourras te prosterner devant sa face parce qu'il a fait tant de choses. Il a fait tant de choses, pas simplement que le sacrifice à la croix, mais tant de choses. Jésus-Christ est notre modèle par excellence parce qu'il a tout accompli, oui, à la croix, c'est vrai. Mais il connaissait aussi le prix de sa mission. Il savait quelle était sa mission. Il savait qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Au début du chapitre 13, au verset 24, il nous a dit « Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. » La porte, elle est étroite. Elle est tellement étroite et resserrée que nous devons y passer nus, sans bagage, sans rien à nous. C'est ça la Bible. On n'y vient pas avec un paquetage. C'est pas la colonie de vacances. Le royaume de Dieu ne sera jamais une colonie de vacances. On rentre dans le royaume de Dieu parce que on est passé par cette porte étroite, parce qu'on lui a tout donné. Parce qu'on lui a donné même ce que nous-mêmes on voulait pour nous. Ça, c'est important. Je clôturerai par ce passage dans Malachie, au chapitre 3. Il nous est dit la chose suivante. Il y a des gens qui se sont mis à discuter et ils ont dit « C'est inutile de servir Dieu ». Qu'avons-nous à gagner, finalement? Parce que les méchants sont tranquilles, ils prospèrent. Quelle est la différence? Pourquoi on servirait Dieu? Dieu a été attentif, il nous a dit. Il nous a dit la chose suivante, au verset 16. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif. L'Éternel fut attentif et il les écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils et qui le sert. Et vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est une parole acquise. Le jour où nous rencontrerons Jésus, nous verrons là la différence de celui qui est passé par la porte étroite et de celui qui n'est pas passé, de celui qui s'est contenté tout au long de son pèlerinage de dire « Seigneur, Seigneur !» Jésus risque de lui dire « Mais mon gars, moi je ne te connais pas. »« Oui, mais nous avons fait ci, nous avons fait ça. » »« Moi je ne t'ai rien demandé. » Soyons prudents sur le chemin sur lequel nous marchons, le chemin sur lequel nous empruntons. Mais surtout, et au-delà de tout, ne nous arrêtons pas en chemin. Continuons notre route dans la confiance en Jésus-Christ, celui qui nous dit que tout est accompli, qu'il a vaincu le monde et que tout pouvoir lui a été donné sur le ciel comme sur la terre et que nous lui appartenons. Les promesses de notre Dieu sont certaines. Elles sont oui et elles sont Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes exhortations. Merci pour tout ce que tu veux nous dire, nous révéler, pour que nous demeurions sur le chemin dans lequel tu veux que nous demeurions. Oui, ce matin, je veux prier pour chacun d'entre nous qui ont besoin d'un encouragement, qui ont besoin de recevoir de ta part cette force. Pour celui qui est épuisé, je veux prier. Pour celui qui est fatigué, je veux prier. Pour celui qui a perdu l'espoir, je veux prier. Pour celui qui a besoin d'être renouvelé, je veux prier dans le nom de Jésus-Christ. Que tu remplisses du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Oui, Jésus, parce que je sais que quand on place notre confiance en toi, alors nous n'avons rien à redouter. Oui, je veux prier pour cette assemblée. Oui, je veux prier pour ton Église. Oui, je veux prier pour celui qui a perdu l'espoir, qui a perdu ce feu, le feu du premier amour. Je veux prier pour une Église bouillante. Je veux prier, Jésus, que le Saint-Esprit nous remplisse tous pour la seule et unique gloire de ton nom. Pour la seule et unique gloire de ton nom. Tu nous as dit que nous sommes le sel et la lumière de la terre. Et c'est ce pourquoi je prie, pour que nous soyons réellement le sel et la lumière de cette terre. Que tu sois vu au travers de nous. Que ceux qui ne te connaissent pas te rencontrent. Merci Seigneur. Merci Père pour tant d'amour. Merci pour cette grâce de pouvoir te connaître et te dire « Papa ». Oui, tout pouvoir sont en toi. Merci pour cet amour que, dont tu nous aimes, cet amour éternel. Alors oui, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.